Père, merci parce que tu nous as donné ton esprit afin que nous comprenions ta parole et qu'elle puisse, Seigneur, réveiller dans nos cœurs, Seigneur, la passion pour toi, la passion pour ton royaume, la passion pour les choses qui te concernent. Alors Seigneur, ce matin, que cette passion vienne nous dévorer encore et nous remplir. Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs qui pouvaient dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin. Seigneur, que ce matin soit encore un moment béni. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ça. C'est quoi ça? L'huile. Pardon? Ah, l'onction. Voilà. Il y a plusieurs mots là qui viennent, qui vont faire partie du message. L'huile, l'onction. Qu'est-ce que ça vous dit encore? Alors, je vois que ce n'est pas n'importe quelle huile, hein, ça vient de Nazareth, village. Voilà, carrément. Ouais. C'est l'huile parfumée qui vient d'Israël. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vous viennent quand je vous montre ça? Trop rempli. Saül David. Ouais, plusieurs choses qui viennent. Puis je les mains. Tout à fait, tout à fait. Bien, bien. Je n'ai pas besoin de faire un message, là. Ok, donc on va parler de ça. On va parler de ça parce que c'est la Pentecôte. Et l'onction, donc ça parle d'onction, puisqu'on est oint d'huile. L'huile, on est revêtu, donc la notion de revêtir, de oindre. L'huile, voilà, c'est l'action, le verbe. Hein. De revêtir l'huile, de remettre de l'huile sur nous. Cette onction est en relation avec deux fêtes, la Pâque et la Pentecôte. Pentecôte, il y a combien de jours qui séparent la Pâque de la Pentecôte? 50. Pourquoi 50? Pardon? C'est 7 fois 7 plus 1, si c'est pas trop dur au niveau calcul. 7 fois 7? 49 plus 1. 50. Voilà. C'est lié au chiffre 7. Et 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc 7 fois 7, c'est parfait. Plus 1, puisque c'est le lendemain du sabbat. C'est le lendemain des 49 révolus. Hein, voilà. La Pâque, c'est le don de quoi? C'est le don de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Il faut la croix pour la résurrection. Donc la croix, le don de la croix, et la Pentecôte, c'est plus facile, c'est le don de... Je vous fais travailler un peu, hein. J'aime bien que ce soit interactif. Donc la Pâque, c'est le don de... Et la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit. Amen. L'onction de la Pentecôte qui renvoie à la puissance du royaume. La puissance du royaume. Jésus a été ressuscité par la puissance de Dieu. L'Église, elle vit par la puissance de l'Esprit. Voyez-vous, c'est la dynamis, la puissance. On a besoin de puissance. Nous ne pouvons pas connaître la Pentecôte si nous ne connaissons pas le but que Dieu a pour l'humanité. Et le but de l'humanité... Il se trouve où? Où est-ce que vous trouvez le but de Dieu pour l'humanité? Dans quelle partie de la Bible? Où est-ce qu'il est marqué le but de l'humanité, des hommes? Ouais, Genèse 1 et 2. Apocalypse après. Mais vous le trouvez dans Genèse. Vous voyez, vous savez, ce livre est intéressant parce que vous pouvez faire ça. Voilà. C'est un seul livre. C'est l'alpha et l'oméga, hein, la Genèse et l'Apocalypse. Hein. Vous voyez, tout est dit. Tout est dit. Hein. Mais à un moment donné, c'est dans Genèse que nous avons la révélation du but que Dieu a pour l'homme, pour l'humanité en général. Et c'est quoi ce but? Rémi, c'est quoi ce but? Il est tout simple. Hein. C'est un mot. Hein. Non. Ça, c'est le but de la rédemption. Hein, c'est intéressant, ça. Hein, vous voyez, l'interactivité, ça sert. Parce qu'on voit si vous, où vous en êtes, là. Ça, ce que tu viens de dire, c'est le but de la rédemption, le rachat. Rachat. Il a été racheté. Mais ça, c'est Genèse 3. C'est pas Genèse 1 et 2. Mais Genèse 1 et 2, c'est le but de l'humanité. C'est quoi le but? Pardon? C'est quoi le but? Pourquoi vous êtes là? Finalement, c'est ça. C'est aussi simple que ça. En direct. Pardon? Pardon? Bien, Julie. Exactement ça. C'est dominer sur la terre. Eh oui, c'est le mot dominer. Alors, vous savez, dominer, c'est Genèse 1 et 2. Genèse 3, dominer, ça prend une autre forme. Ça prend la forme de domination, d'autocratie, de tyrannie, etc. Mais avant Genèse 1 et 2, dominer, c'est très noble. Hein, donc on peut utiliser ce mot-là. Sauf qu'il faut faut le mettre dans le contexte. Genèse 1 et 2, c'est dominer. Dieu il a créé l'humanité pour dominer. Et dominer quoi? Toute la création. Toute la création. C'est ça le but? C'est pour ça qu'on est là? C'est qu'on doit être au-dessus de toute la création. Attention, pas au-dessus des dieux. C'est Dieu qui reste Dieu. On reste homme, on reste créature, mais on est au-dessus de toute création. Sur le monde végétal, sur le monde animal, etc. C'est pour ça qu'il nous a donné un pouvoir de création, de co-création. La femme, elle co-crée, donc elle a appelé la mère des vivants, et l'homme doit agir pour créer des routes, des autoroutes, des voitures, créer, et la création vient de Dieu, la créativité. Il y en a qui sont créatifs ici? Tous, vous êtes créatifs, hein? Tous, parce que c'est notre but. Donc, il faut revenir au but originel, c'est de dominer. Dieu a donné et comment est-ce qu'on peut dominer? Qu'est-ce qu'il faut? Le moyen pour dominer. Il faut l'autorité, la parole. Qu'est-ce qu'il faut pour dominer? La puissance. Regardez quand vous êtes déprimé. Est-ce que vous êtes créatif? Bah non, vous pleurez sur vous-même. Je suis un pauvre minable, je suis rien, machin, etc. Vous ne dominez pas, vous êtes dominé. Pour dominer, il faut de la puissance, il faut de l'énergie, il faut de la force, c'est ça. Donc on a besoin de la puissance. Or la puissance, c'est quoi l'univers? C'est le Saint-Esprit. Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la dynamis, la puissance. On a besoin du Saint-Esprit. Pour être fort, pour être puissant, pour agir, pour dominer. Amen. Le but de Dieu. Mais, comme Rémi l'a si bien dit, il a devancé ce moment, c'est qu'il y a eu la chute. Et la chute a fait que l'homme a donné son droit à Satan. Et il a retiré sa confiance à Dieu. Et il a fait confiance à Satan, qui est le destructeur. Et tout cela, Dieu a vu ça, et il a eu de la peine pour les hommes, alors que pour les anges, il n'y a pas de rédemption. Donc regardez la grâce que nous avons. Et Dieu nous a rachetés. Et qu'est-ce qui permet d'être racheté? C'est, je sais que Laurence a la réponse, la croix. Hein, c'est ton mot. Eh oui, la croix. Il faut toujours avoir ce mot à la bouche, la croix. Dieu nous a rachetés par la croix. Le but de Jésus, le seul but qu'il avait, c'est la croix. Et regardez les difficultés qu'il a eues jusqu'au moment où il est monté sur la croix. Il a failli abandonner à Gethsémané. Il a tellement lutté pour aller jusqu'au bout que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Ça vous est arrivé déjà? Ça va être intense comme combat pour aller jusqu'à la croix. C'est la croix qui nous a donné, pardon? C'est la croix qui nous a donné et n'était donnée à la Pâque. Amen. Donc la Pâque, c'est la croix, et la Pentecôte, c'est la puissance. Amen. Lorsque nous naissons de nouveau, il faut naître de nouveau. Jésus a dit ça à Nicodème. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc lorsque nous naissons de nouveau, nous retrouvons la nature de Dieu en nous. Vous voyez? Donc la croix, la nouvelle naissance, Pâques, c'est la nouvelle naissance où nous retrouvons la nouvelle nature de Dieu. Et le baptême et la plénitude du Saint-Esprit nous donnent quoi? La capacité de dominer. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. La théologie qui dit que ouais, on reçoit tout en même temps, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se convertir. Donc, de toute façon, on reçoit le Saint-Esprit au moment de sa conversion. Mais c'est le Saint-Esprit pour recevoir la nature de Dieu. Et ensuite, après, il faut la puissance, la dynamis de Dieu. Voyez-vous, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Bien que ce soit la même chose, vous voyez, mais à un moment donné, c'est pareil, il faut séparer les choses pour comprendre comment Dieu agit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait, sinon on est un peu dans le flou, quoi. Et ce que l'ennemi veut toujours qu'on soit dans le flou, il ne veut pas que les choses soient claires. Mais moi j'aime bien que les choses soient claires. La nouvelle naissance, on reçoit la nature de Dieu par le Saint-Esprit, bien sûr, mais la plénitude et l'autorité du Saint-Esprit pour dominer, on le reçoit dans cette action du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut la rechercher. Moi, quand je me suis converti, c'était en 1968, enfin 7,5-8, au moment où il y avait voilà, la révolution. La révolution, voilà. Comment s'appelle ça, la révolution? Mai 68, quoi. Je me suis converti là. Et c'était absolument incroyable, cette rencontre avec le Seigneur. C'était les lumières, c'était pendant des semaines, j'étais dans la lumière du Seigneur, c'était absolument incroyable. Mais 2 ans après, j'étais dans l'église à Rouen, là où est Michel, l'église de Pentecôte, et là, j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Il y avait près de 600 personnes dans la salle, moi j'étais devant. Ils sont partis, 1 heure après, j'étais encore là, personne ne pouvait me bouger. Tout le monde était parti, le prédicateur était dans le fond avec le monsieur copain et tout ça. Et ils attendaient. Et bien sûr, ils étaient un peu troublés parce que je ne pouvais pas me lever. J'avais près d'un million de volts qui me traversaient. J'étais conscient, je voyais tout, mais voilà, la puissance de Dieu était là. Et je ne pouvais pas me lever. C'est pas possible. C'est le courant me traversait. Et quand c'était fini, je me suis levé. Et le prédicateur s'est adressé à monsieur copain et dit: mais ici, vous ne croyez pas la puissance du Saint-Esprit? Dire ça à un église de Pentecôte. Oui, parce que lui était d'Afrique du Sud, il voyait ça sans arrêt. Il était habitué à voir la puissance de l'Esprit descendre sur les gens. Mais il faut, là j'ai expérimenté la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous voyez que pendant une demi-heure, vous êtes traversé par un million de volts. Enfin, j'explique ça comme ça parce que je ne sais pas ce que c'était. C'était la puissance de Dieu qui vous terrasse. Comme ça, c'est la puissance de Dieu. Et il faut la puissance de Dieu pour évangéliser, pour témoigner. Amen. Il y en a qui veulent évangéliser ici? Si vous n'avez pas la puissance, ce n'est pas la peine, restez dans votre lit. Restez dans votre lit, vous êtes plus sûr. Parce que quand vous évangélisez, il y a un combat qui s'engage. Il y a un combat. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on dépouille. L'ennemi, quel est, vous voyez, Jésus donne un enseignement. Vous connaissez l'enseignement sur l'homme fort? Luc, enfin dans tous les évangiles, c'est marqué l'homme fort. L'homme fort, c'est qui? C'est le diable. C'est l'ennemi, toutes ses légions. Et Jésus dit alors l'homme fort, qu'est-ce qu'il a comme trésor, voilà, il dit il faut lui prendre ses trésors. Quel est le trésor de l'homme fort, de l'ennemi? Oui, mais voilà, c'est les âmes. Lui, c'est les âmes. Il rend captif les âmes. Il aveugle les âmes. Pourquoi est-ce que voilà, ton mari ne voit pas? Pourquoi est-ce que vos conjoints ne voient pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. S'ils voyaient ce que nous on voit, il viendrait tout de suite à Jésus. Eh, vous êtes d'accord? On ne peut pas refuser un cadeau comme Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si je vous donnais un chèque, là. Tiens, je te donne un chèque d'un million d'euros. Ah, tu le prends. Voilà. Oui, il n'y a pas d'hésitation. Avec Jésus, c'est pareil. Quand vous savez qui est Jésus, vous ne pouvez pas refuser. Donc, ça veut dire qu'ils sont, dites-le, aveuglés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il voie? Exactement. Il faut lier l'homme fort. C'est ce que Jésus a dit. Et comment est-ce qu'on lie l'homme fort? Voilà. tout premier là. C'est qu'on ne sait pas lier l'homme fort. Mais en tout cas, sans rentrer dans ce sujet que j'ai pas prévu ce matin, mais il est prévu, hein. On a des guetteurs en route, des intercesseurs qui vont faire ça. C'est leur rôle, hein, le guetteur. Mais pour lier l'ennemi, il faut de la puissance. Ah oui. Vous pouvez pas lier un ennemi qui règne sur le monde entier, sur les âmes, sur des milliards d'âmes. Vous rendez compte, la puissance de lier ça. Hein, vous pouvez les lier avec vos prières, avec vos machins, etc. Non, il faut la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut de la puissance pour lier. Hein, si vous liez, Arnaud, de temps en temps, il lit voilà, avec les menottes, mais il faudrait des menottes qui soient aussi grosses que l'univers quoi, pour lier l'homme fort. Quoi. Il n'y a pas de menottes pour l'homme fort. Sauf un seul, c'est le Saint-Esprit. La dynamis de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent utiliser le Saint-Esprit pour lier l'homme fort? Voilà. Alors donc, n'utilisez pas vos propres forces, vous serez épuisé. Donc c'est pour ça que je dis, il vaut mieux rester couché, hein, parce que vous allez tout de suite être terrassé par l'ennemi. Il aime ça, il aime qu'on l'attaque avec les mauvaises armes. Mais quand vous utilisez le Saint-Esprit, il est terrassé. Amen. Il faut de la puissance. Voilà. Et la Pentecôte, eh bien, c'est la fête de la puissance pour redonner à l'homme la capacité de dominer l'homme fort. Adam, il a cédé à qui ? À sa femme ? Non, à sa femme. Non, non. Satan est plus intelligent que ça. Il passe par la femme. Hein. Ce que femme veut, Dieu le veut. C'est un dicton. Hein. Donc l'homme, il succombe toujours à sa femme. Hein. Non, c'est un principe, ça reste vrai. Je vous expliquerai ça plus tard. La femme a succombé à qui ? Non, pas à Satan non plus. Vous voyez, il faut suivre, c'est un serpent. Au serpent. C'est très important ça. Dans le combat spirituel, si vous ne comprenez pas ça, vous êtes mort. Hein. La femme a succombé au serpent. Eh oui, le serpent c'est un médium. C'est pas directement Satan, mais tout ça il faut l'expliquer dans le combat spirituel. Et le serpent, il a été utilisé par Satan. Vous savez, une fois que Satan a fait son truc, le serpent, il est redevenu serpent, terminé. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est un médium. Il s'est prêté au jeu. Et avec l'ennemi, vous êtes toujours dans un jeu où vous perdez si vous n'utilisez pas la puissance de Dieu. Si vous n'utilisez pas l'onction. Jésus a dit, quand il a commencé son ministère, quand il a été revêtu au moment de son baptême, par quoi ? Par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il était homme. Il n'avait pas besoin de Saint-Esprit en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, il avait besoin du Saint-Esprit. Et quand il est rentré dans la synagogue, qu'est-ce qu'il a lu ? Le passage d'Ésaïe, où il est dit, le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir les malades, etc. Il m'a oint. On a besoin de ça. Vous voulez ça ? Hein ? J'ai pas assez d'huile, là. Il faut que Ruth m'apporte des litres d'huile. J'ai utilisé beaucoup l'huile. Il m'a oint. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il m'a oint. On a besoin de la force, la capacité pour dominer sur la création et sur Satan. Le prince de ce monde, celui qui nous emmène toujours dans des voies d'impasse, qui nous emmène toujours par le mensonge, qui nous emmène dans des voies détournées, loin du Seigneur. Alors la Pentecôte, c'est la fête du don de l'Esprit, du parler en langue. C'est cette flamme de feu du commencement de l'Église. Voyez-vous, le feu, c'est aussi le symbole de la puissance, hein, le symbole de ce qui est fort. Hein. Tout cela a l'air mystérieux, mais ça ne l'est pas tant que ça. Quand on comprend déjà que la fête de Pentecôte était une fête juive. Et vous voyez, toute la parole de Dieu rentre dans ce qu'on appelle des considérations d'eschatologie. C'est quoi l'eschatologie ? C'est l'accomplissement de ce qui était prévu par les prophètes. C'est-à-dire, tout ce qu'on vit était prévu, parce que Dieu a un plan. On n'est pas dans un loto avec Dieu. Dieu sait où il va. Vous savez, Dieu est aux commandes de son bateau et il sait où il va. Et quand il dit « Allons de l'autre bord », il a dit ça un jour à ses disciples, est-ce qu'ils sont arrivés de l'autre bord ? Mais comment ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes en route ? Oui. Est-ce qu'on s'est arrivé de l'autre bord ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes en cours de route ? Est-ce qu'ils sont arrivés de l'autre bord? Vous avez dit oui à chaque fois. Ben voilà, c'est comme ça notre vie. Notre vie, quand on les remet entre les mains de Dieu, on arrivera à l'autre bord. Mais en route, il y a des tempêtes. Il y a des problèmes. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi, je dis merci Seigneur pour les tempêtes, parce que j'apprends des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les plus grosses tempêtes de ma vie, c'est là que j'ai appris le plus de choses. Si je peux vous parler ce matin de certaines choses, c'est parce que je les ai expérimentées. Sinon, je ne pourrais pas vous emmener là où je suis, parce que je ne les connaîtrais pas. Vous voyez, il faut expérimenter des choses avec le Seigneur, et les tempêtes sont là pour ça. Pour dire, Seigneur, je ne comprends rien, mais je te fais confiance. Il y en a qui, ce matin, sont dans les tempêtes. Bien, dites Seigneur, levez la main, dites Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Voilà, c'est ça la foi. Je te fais confiance. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Mais je te fais confiance. Amen. C'est ça la foi. Vous voyez, dès que vous commencez à raisonner, ce n'est plus de la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu empêche de raisonner, mais dans la foi, c'est la foi. C'est Seigneur, je te fais confiance. Donc la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit, c'est le don de la Torah, c'est la Shavuot. La fête de la Pentecôte, pour le peuple juif, où Dieu s'est inscrit dans cette fête pour donner le Saint-Esprit, et c'est pas le hasard, Dieu n'a pas, voilà, c'est pas, ça lui a pas échappé. Ce jour-là, il a donné le don de l'Esprit pour établir l'Église. Et c'est le moment où les Juifs fêtaient le don de la Torah. Le don de la Torah. La parole de voilà, ce qui a été donné à Moïse, si vous voulez, le Pentateuque. La Torah, c'est les cinq pentas. Deux, ça veut dire cinq. Penta, pentagramme, penta, c'est cinq. Hein. Tétra, c'est quatre. Tétramorphe, vous connaissez. Tétra, penta, bon, c'est du grec, c'est pas de ma faute. Le français vient du grec. Les cinq premiers livres, c'est le Pentateuque, c'est tout. C'est les cinq premiers livres. Et c'est la Torah. Et donc la Torah qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, c'est-à-dire la parole de Dieu, eh bien, était fêtée ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Et ce n'est pas un hasard, parce que ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle que le jour où on fête la Torah, eh bien, on fête aussi le Saint-Esprit, la Pentecôte. Vous avez vu, Dieu, il assimile les deux. C'est pour ça que les pères de l'Église, les théologiens, ont parlé de la Trinité, qui n'existe pas, ce mot-là, dans la Bible, mais qui est un concept théologique, parce que tout parle de la Trinité. Vous voyez, la parole et l'Esprit ne peuvent pas être dissociés. Le Saint-Esprit ne va jamais vous dire quelque chose qui est en dehors de la parole. Si c'est ça, vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on éprouve les prophéties. Si vous recevez des prophéties d'un prophète, hein, on est assez, comment dirais-je, assez prudent, Michel et moi, et d'ailleurs les gens des ANC s'en sont aperçus, on dit, ah, vous êtes un peu recul sur les prophéties. Je dis oui, parce qu'on a vu trop de dégâts avec les prophètes. Et que les chrétiens ne sont pas assez sages pour éprouver les prophéties. Ils les prennent comme ça. Voilà. Une fois un prophète, il est venu dire à un jeune homme, tu seras riche, tu auras une femme belle et tout ça. Ben, le gars, on ne l'a plus arrêté après. Hein. C'est le coq. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, il s'est tellement cru arriver, voilà, il sera riche, il aura un bon métier, il aura des femmes, une femme, non, une femme. Enfin bon, c'était tout comme si, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, hein, ça disjoncte là-haut, quoi. Non, les prophètes, les prophéties doivent être soumises aux prophètes. Soumettez les prophéties aux prophètes, au discernement. Et parce que dans tout prophète aujourd'hui, c'est plus la prophétie de l'Ancien Testament qui est la parole de Dieu. Donc il faut prendre ce qui est bon et laisser de côté ce qui est mauvais. Ouais. Dans une église à Paris, il y a quelques années, je ne vous dirai pas laquelle, il y avait des prophéties, une grande église, où une dame s'est prophétisée en disant « Toi, mon frère, le Seigneur m'a montré que tu dois me donner ton piano à queue. » C'était précis hein, comme prophétie. Vous voyez, des prophéties comme ça, voilà. Ben non, ça, c'est pas des prophéties qui viennent de Dieu. Alors ? Voilà. Non, il faut soumettre les prophéties à la parole de Dieu. Amen. Il faut rester, eh bien, sérieux avec le Seigneur. Pour les Juifs, écoutez bien, Dieu autrefois donnait son esprit et sa parole. Sauf que c'était des hommes particuliers qui étaient oints. Moïse, par exemple, personne ne doutait que Moïse était oint. Oint comme prophète. Oint comme leader. Oint comme celui qui a sorti le peuple d'Égypte. Regardez l'autorité de Moïse en tant qu'homme de Dieu. Donc cette onction, elle était reconnue. Reconnue, connue, reconnue, tout ça. Voilà. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'était très très fort. Et Moïse a fait une œuvre extraordinaire pour amener le peuple dans la terre promise. Bien sûr, il a dû donner le bâton à Josué, mais ça s'est fait, ils sont rentrés dans la terre promise. Donc, l'un des sens de la Pentecôte, c'est que l'Esprit souffle en étant appuyé sur la parole de Dieu. L'Esprit et la parole sont une et même chose. La seule différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ça c'est très important, notez-le, c'est que dans l'Ancien Testament, donc on parle de Moïse, et du buisson ardent. Vous vous rappelez le buisson ardent ? On est à nouveau en face de feu, en face d'une manifestation de puissance, en face de un peu comme une langue de feu, mais beaucoup plus importante. Et il faut bien comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Au niveau de la Pentecôte, ici, c'est très important, c'est que le buisson ardent était collectif. C'était un buisson pour tout le peuple. Il n'y avait pas plusieurs buissons. Il y avait un buisson pour l'ensemble du peuple qui est apparu à Moïse, qui était le représentant du peuple. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y a une symbolique qui est différente que dans le Nouveau. Donc, un feu, une langue, un buisson pour tous. Et un intermédiaire, Moïse. Moïse était l'intermédiaire. À tel point que quand il est descendu et qu'il a vu qu'ils étaient en train d'adorer le veau d'or, il a fracassé ses tables, la parole, et il a dû remonter sur la montagne 40 jours pour recevoir à nouveau les tables. Tellement il était écœuré de l'idolâtrie du peuple. Mais il y avait un buisson pour tous et un intermédiaire pour tous. Dans le Nouveau Testament, ça a changé. On est à nouveau la Pentecôte, donc le don de la Torah, au moment où Moïse l'a reçu. Et là, c'est une flamme pour chaque personne, pour chaque disciple. Sur chaque disciple, sur les 12, ça veut dire la complétude, hein, tout le monde, sur les 12, il y avait une flamme de feu. Il n'y avait pas un buisson, comme Moïse, il y avait une flamme de feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans le prophétique. Dans le prophétique, il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire par des images, par des relations avec la réalité. La réalité, c'est quoi ? Ça, c'est une image, les flammes de feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette Pentecôte ? Pardon ? Voilà. C'est une relation entre Dieu et son peuple qui passe par chaque individu. Et comme je vous le disais, le 12, c'est le chiffre de la complétude. Donc les apôtres représentaient toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les nations, etc. Donc chacun de vous reçoit une flamme de feu. Ce n'est pas un buisson pour tous, c'est une flamme pour chacun. Dis-le à ton voisin, tu as une flamme de feu, tu reçois une flamme de feu. Hein? Aujourd'hui, c'est à Pentecôte, tu reçois une flamme de feu. Voilà. Et au niveau humain, rappelez-vous à la Pentecôte, il y a 2000 ans, quand Pierre a parlé, au niveau humain, tout le monde a reçu une flamme de feu. Et est-ce qu'il y avait un intermédiaire ? Non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Attention, on pense à l'intermédiaire qui est Jésus, à l'intercesseur. Mais là, je ne parle pas de l'intercession. Je parle de celui qui apporte, qui représente le peuple. Chacun se représente lui-même. Il est représenté, Hélène est représentée pour elle. Philippe est représenté pour elle. Alors je vous renvoie, j'en profite, je suis un peu intéressé pour vous, pour que vous soyez enseignés, d'écouter ce que Cosette a dit cette semaine. Vous apprendrez beaucoup de choses là-dessus sur le couple, le lien conjugal et le lien parental. C'est pas du tout la même chose et ça renvoie à cette notion. Hein, donc écoutez bien Cosette, vous apprendrez. En plus, elle est rigolote. Hein. Elle vous fait marrer comme des baleines. Voilà, tout le monde est écroulé. Voilà, mais c'est bien l'enseignement hein, comme ça. Parce que dans l'humour, on passe des choses. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas si humoriste, mais on peut passer des messages. Hein. Donc écoutez Cosette, vous allez comprendre ça. Il n'y a pas d'intermédiaire humain. Le Saint-Esprit descend sur chacun d'entre nous et parle à chacun de nous. Il n'y a plus besoin de passer par un intermédiaire. Le pasteur, je ne suis pas un intermédiaire. Les prophètes, ce n'est pas des intermédiaires. Les apôtres, ce n'est pas des intermédiaires. Vous voyez, c'est une relation directe avec Dieu. Amen. C'est pour ça que dans l'Église, on parle de relation directe avec Dieu. Hello ? Comprenez ? C'est pour ça que la théologie est appuyée là-dessus. C'est parce que c'est une réalité. Dans le Nouveau Testament, on reçoit la puissance et on est en relation directe avec Dieu. Et Dieu nous... Bien sûr, à l'inverse, Dieu nous rend responsables. Du coup, chacun est responsable. À l'époque, il pouvait dire « Ah, Moïse, ceci, Moïse, cela, voilà, il a fait des bêtises, tout ça. » Non, aujourd'hui, si toi tu fais une bêtise, tu es responsable pour tes bêtises. Voilà, c'est tout. Donc, il faut assumer les conséquences. Voilà, donc ça c'est important. Le Nouveau Testament, c'est une flamme pour chacun et plus d'intermédiaires. Chacun entend directement la parole de Dieu. Il y en a ici qui n'entendent pas la parole de Dieu ? Non ? Sinon, vous n'êtes pas né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez la capacité dans la relation avec Dieu d'entendre la voix de Dieu, de recevoir la révélation par le Saint-Esprit qui vous donne d'être né de nouveau, d'établir cette relation et de recevoir la dynamis, la puissance de Dieu. Amen. Cette parole, d'ailleurs, elle a été adressée par Pierre, à la Pentecôte, à combien de personnes ? Pardon ? J'écoute pour entendre un autre chiffre. Tout ça, c'est vrai, mais le chiffre symbolique... On est dans le symbolique. Hein, bon, avec le titre amorphe, je vous ai embêté avec ça. Mais le symbolique, ça renvoie à des réalités. Hein. Donc, quand on comprend le symbole, on comprend la réalité. Sinon, on ne comprend pas la réalité. La Bible est symbolique. Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre ? Non, 70. Ou 72 nations qui étaient représentées. Alors 70 ou 72, ne me demandez pas trop le détail. Je sais que c'est des traditions juives. Parfois 70, 72, je ne sais pas si c'est la 70, 72. Enfin, peu importe. Le chiffre 70 ou 72 représente toutes les nations. Vous voyez ? Donc c'est très important. Le 12, les flammes, ça représente tout. Le 12, c'est tout. Et 70 ou 72, c'est toutes les nations. Donc ce jour-là, toutes les nations étaient représentées. Vous voyez ? Et c'est donc un message universel. C'est un message à tout le monde. Ce n'est pas juste un message pour les juifs. C'est pour ça que les juifs, ils ont eu du mal à comprendre. Ils pensaient que c'était pour eux. Non, c'est pour tout le monde, toutes les nations. Aujourd'hui, toutes les nations sont concernées par le message et par cette réalité de la Pentecôte. Voilà. Quand le Saint-Esprit vient, il amène la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, l'onction, c'est la présence de Dieu. Et donc, il faut les deux, il faut la parole et la présence de Dieu. Si on n'a pas la présence de Dieu, on ne comprend pas la parole. Enfin, on la comprend avec son intelligence, hein, mais ça devient vite du dogmatisme ou... de la, on appelle ça, légalisme, la loi, c'est les pharisiens. Il est écrit. Jésus dit oui, il est écrit, mais moi je vous dis. Waouh, il est écrit, mais moi je vous dis. Et qu'est-ce qu'il disait Jésus ? Il ne contredisait pas la parole, il l'interprétait. Il disait, voilà ce que ça veut dire. Okay ? Sinon, on comprend la loi, l'écriture, de manière légaliste. Et on est tous légalistes au fond de nous-mêmes. Tous. Parce que la chute nous a rendus légalistes. Comprenez bien ça. Tous ceux qui ont une tendance, voilà, une tendance plutôt légaliste que... Il y a deux tendances, légaliste ou mystique. Hein. Bon, voilà, on tombe d'un côté ou de l'autre. Mysticisme, voilà. Légalisme, c'est hop, la parole. Pourquoi ? Parce qu'on veut être en faveur de Dieu. On veut avoir la faveur de Dieu. Et donc, on devient légaliste. Mais la faveur de Dieu, on ne l'obtient pas. Elle est donnée. On reçoit, c'est pour ça, Jésus dit de devenir comme des petits-enfants. Les petits-enfants, bon, là, Sonia a eu le bon réflexe, elle a accueilli. Mais un petit enfant, il accueille n'importe quoi. Un petit enfant qui est sur un mur de 10 mètres, je dis, saute, il va sauter. Eh, toi, peut-être pas. Et t'as raison, parce que tu te ramasserais. Hein. Bah oui, parce que F égale M gamma. C'est ce que j'ai appris à mes enfants. Donc avec 10 mètres de 50 kilos, ça fait 5 fois 10, ça fait 500 kilos. 500 kilos, je peux pas, ouais. C'est F égale M gamma. Voilà, mais un enfant, oui. Et voilà, il saute, voilà, et il pense que le papa a pensé à tout, il a pensé à F égale M gamma, qu'il va pas se planter, que voilà, etc. Non, il va sauter, c'est la confiance, vous voyez. Et dans la foi, il faut la confiance. Il faut dire, Seigneur, je crois que tu es un papa super. Tu peux supporter 500 000 milliards de kilos et je peux sauter. Voilà, c'est ça. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous sautez, voilà, du haut de l'univers, vous sautez, voilà, 500 millions de lumières d'années, vous sautez et puis c'est tout. Le Seigneur va vous rattraper. Vous voyez, c'est ça. Il faut comprendre que la foi, c'est la foi dans un Dieu tout puissant. On l'a chanté ce matin. Dieu est tout puissant. Amen. Mais après, le lundi, il faut le mettre en pratique. Dieu est tout puissant. Ok ? Là, ah ben non, il est pas. Quoi ? Il est tout puissant ou pas ? Avec ton boss, avec ton truc, tout ça. Il est tout puissant ou pas ? Ah, il vous teste, hein ? Hello ? Dieu est tout puissant, donc il faut sauter. Il ne faut pas se retenir. Il faut dire, Seigneur, tu as dit et je te fais confiance. Amen. Donc, on va en arriver à l'onction. L'onction. Ça, c'est de l'huile. Alors, c'est pas de l'huile que j'ai pas fait un tour de magie pour cette huile. Hein. C'est de l'huile, voilà, on me l'a donné, c'est tout. Mais cette huile est symbolique. Juste une petite différence entre le symbole et le signe. C'est quelque chose qui signifie ou quelque chose qui est symbolique. C'est quoi la différence entre le symbole et le signe ? Alors, vous êtes tous des experts maintenant, avec les tétramorphes symboliques. Vous maîtrisez tout, pas de problème. Je sais que vous avez tout compris. Alors, c'est quoi ? Ce n'est pas un signe, c'est un symbole. Ça, c'est un symbole, c'est pas un signe. Bien sûr, il peut signifier le Saint-Esprit, mais c'est un symbole. Pardon ? C'est universel, alors, bien, c'est déjà important. Voilà, oui, parce que je ne sais pas en Corée, je sais pas en Corée comment vous faites l'essence interdite. Est-ce que c'est le rouge, le truc rouge? Je ne sais pas. Bon, il y a peut-être dans beaucoup d'endroits où c'est ça, mais dans d'autres endroits, vous allez, il faut apprendre le code de la route. Voilà, parce que voilà, vous voyez le symbole interdit d'entrée avec le truc rouge barré. Voilà, vous comprenez, c'est un signe. Mais le signe change, il n'est pas universel. Il change suivant les codes, etc. Le symbole, c'est universel. Pardon ? Voilà, il correspond à une réalité. Il la cache, c'est vrai, mais il correspond à une réalité. Le signe, ça indique une réalité. Les gens, quand ils disent « comment je vais pour rentrer sur Paris ?» Ils disent « vous suivez, et c'est marqué Paris. » Alors, vous prenez pas Rouen, vous prenez Paris. Parce que vous allez trouver Paris. Voilà, donc l'autoroute, c'est marqué Paris. Donc, vous suivez Paris, c'est le signe. Vous voyez ? Mais c'est juste un signe, c'est pas un symbole. Derrière, vous prenez la pancarte, il n'y a pas Paris dedans. Hein. Alors, il faut aller à Paris pour trouver Paris. Parce que le symbole, il y a la réalité derrière. Hein. C'est plus puissant que le signe. Le symbole, c'est derrière ça, il y a le Saint-Esprit. Alors, comprenons-nous bien, hein, ce n'est pas de la magie, là, ce n'est pas l'huile qui est le Saint-Esprit. Simplement, quand on fait l'onction, eh bien, le Seigneur, quand il est fait dans la prière, quand il est fait voilà, avec un cœur sincère, quand il est fait selon la parole, eh bien Dieu agit derrière, un peu comme si c'était une obligation pour Dieu d'obéir à sa propre parole. Vous voyez, ça va très loin le symbole. La Sainte Cène, par exemple. Sainte Cène, c'est un signe ou un symbole ? C'est un symbole. Parce que quand on prend le pain, quand on prend la coupe, hein, le Seigneur est réellement présent. Mais il n'est pas présent parce qu'il y a un lien magique entre les deux. C'est seulement parce que c'est une obéissance. C'est que quand on le prend, c'est pour ça qu'il faut le prendre avec dignité, avec sérieux, vous voyez ? Parce que c'est une réalité. Par contre, les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Avec ce qu'ils appellent l'Eucharistie. Ils On fait de la magie, oui. C'est de la magie. La messe, c'est de la magie. Ouais, ouais. C'est de la haute magie. Ça s'appelle de l'alchimie. Attendons, la messe Saint-Pie-X, hein. Parce que les prêtres sont évangéliques. Qui, j'ai vu qu'ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait. Mais bon, ça, c'est leur problème avec leur évêque. Chrétiens, les prêtres évangéliques, ils sautent ça. Mais ceux qui le font vraiment, c'est de la magie. Pourquoi ? Parce que ils considèrent qu'ils transforment les choses. Et je me permets de vous dire ça avec autorité, parce que il y a quelques années, j'étais dans une rencontre œcuménique où ils ont voulu expliquer la messe. Et puis, comme c'était tellement compliqué à comprendre ce qu'ils racontaient, il le savait lui-même d'ailleurs, personne ne comprenait trop, il avait préparé un truc dans sa valise qui était à côté, et il attendait les questions. Questions-réponses. Alors il attendait les questions, bon, alors comme personne n'a compris ce qu'il a raconté, bon, parce que c'est incompréhensible leur truc, moi non plus. Ils ont dit, mais prêtre, alors il levait la main, il dit, je comprends, parce qu'il y a 30 ans, moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas croquer sur l'hostie parce qu'il y avait du sang du Christ qui allait sortir, donc j'allais avaler du sang. Donc il ne fallait pas croquer l'hostie. Et c'était un monsieur de 80 ans, hein, il savait ce qu'il disait. Et d'ailleurs, l'orateur, qui était le vicaire général du diocèse de Versailles, donc futur évêque, il savait ce qu'il disait. Il disait, oui, vous avez raison, mais ça, on a expliqué ça il y a 30 ans. Maintenant, ça a changé. Ah bon, ça a changé. Je vais vous expliquer. Et hop, il ouvre sa mallette. Il dit, qu'est-ce qui va sortir là? Il sort deux cuillères, une cuillère et une fourchette en bois. Vous savez, les grandes machins pour faire les salades là. Voilà, il sortait ça. Il dit, voilà, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'Eucharistie, puisque, voilà, que ce soit clair. Bien voilà, vous avez une cuillère et une fourchette en bois, et ça, par la messe, ça se transforme en corps mystique de Christ. Vous comprenez plus encore ? Voilà. Voilà, il a expliqué ça comme ça. Ben, c'est de l'alchimie. Les alchimistes, ils font ça. Voilà, donc, vous voyez, on n'est pas dans l'alchimie. On n'est pas dans le signifiant, on est dans le symbolique. Et le symbolique, et c'est pour ça le tétramorphe, je voulais que vous puissiez bien comprendre le tétramorphe, il est symbolique. Il renvoie à l'être vivant que nous devons être. Et c'est très très fort quand vous le comprenez. D'ailleurs, René m'a dit cette semaine, là, ils ont refait le dernier tétramorphe, là, et ça rentre. Hein. Le symbolique, il faut se laisser pénétrer par l'Esprit du Seigneur pour comprendre les choses, et après, ça devient clair. Et ça donne une autorité à notre foi. Amen. Voilà, donc le symbolique, l'huile est le symbole de la guérison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour guérir. Il vient pour racheter nos âmes. Il vient pour guérir. Il vient pour délivrer. Il vient... C'est pour ça qu'on l'utilise dans le torrent qui purifie aussi. Le symbole, au moment de la délivrance, au moment... Toute cette huile d'onction est utilisée à ce moment-là. Jésus, quand il reçoit le Saint-Esprit et qu'il rentre dans la synagogue, il lit ce passage d'Isaïe. Le Seigneur m'a oint pour apporter la délivrance aux captifs, pour libérer les captifs et guérir les boiteux et les opprimés, etc. Amen. Alors pour bien comprendre cette onction, hein, parce qu'on dit souvent « Ah, oh, il a une onction », il faut comprendre que chacun de nous, on a une onction. C'est vrai qu'il y a des onctions spéciales, des onctions, et l'onction, on peut la traduire par un autre verbe, par un autre terme. Tiens, tu me passes juste le coach, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On peut le traduire par revêtement. Tu te lèves ? Voilà. L'onction, c'est le revêtement. C'est aussi le revêtement. Ça aussi, c'est une onction. Vous voyez, donc, il y a l'huile, il y a le revêtement. Le revêtement de la puissance. Le revêtement de l'Esprit de Dieu, le revêtement. Et c'est pour ça que cette image du manteau est utilisée dans Élie avec Élisée. Rappelez-vous, le manteau. Voilà. Donc vous avez différents symboles. Hein. Ça, c'est aussi un symbole qui renvoie à l'onction du Saint-Esprit qui vient pour donner quelqu'un. Alors dans l'Ancien Testament, on va voir dans le Nouveau tout à l'heure, il y avait différentes formes d'onction, différentes huiles. Hein. Il y avait l'huile pour le sacrificateur et les objets de culte, dans le temple. Il y avait l'huile pour les rois. Il y avait l'huile pour certains prophètes. C'est pas général. Le reste, c'est général. Les prophètes, c'est pas pour tout le monde, oui. C'est Élisée en particulier. Et l'huile pour guérir les lépreux, entre autres, mais les maladies en général, dans l'Ancien Testament. C'était ce qui était consigné dans la parole, c'était l'utilisation de ces huiles. Alors regardons d'abord le sacrificateur. Le sacrificateur, celui qui faisait le sacrifice, hein, qui était préposé dans le temple, faire les sacrifices. L'huile qui est utilisée par les sacrificateurs, et qui pour être sacrificateur, il fallait recevoir cette onction, hein, était répandue sur les sacrificateurs dans Exode 29-21, vous pouvez vérifier, dans Lévitique 8-12, et dans Psaume 133-2. Le souverain sacrificateur recevait une onction spéciale qui le distinguait donc des autres sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Voilà. Ça, c'est les sacrificateurs. Les rois, on n'a pas d'indication particulière sur l'huile. L'huile des sacrificateurs était une huile avec des aromates. Dans l'huile, il y avait des aromates en plus, qui avaient une signification symbolique aussi. Les rois, il n'y avait que de l'huile d'olive. Il n'y avait pas d'aromates dedans. Hein. C'était très précis. Ensuite, quelques prophètes. Donc là, vous trouvez ça dans 1 Samuel 10, 1, 16, 3, 13, 1, etc. Vous avez l'huile pour les prophètes. Donc la plupart des prophètes n'ont pas reçu d'huile, sauf le cas d'Élisée, c'est dans 1 Roi 19, 16. Et les lépreux, et en général c'était de l'huile naturelle, les lépreux qui étaient guéris, ils étaient administrés pour les lépreux par le souverain sacrificateur quand ils étaient restaurés, hein, comme pouvant revenir dans la société juive, avec des sacrifices d'expiation et d'holocauste. Donc pour les lépreux, il y avait deux choses. Il y avait le sacrifice et l'onction. Vous voyez, il y avait le sacrifice et l'onction pour être restaurés, pour les réintégrer dans la communauté d'Israël. Alors, que signifie ce revêtement? Ce revêtement s'appelle aussi la consécration. Consécration. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit à Nathalie, je ne suis pas d'accord avec sa traduction, parce que je dis, pourquoi tu appelles les gens qui prient les anciens? Elle a dit, oui, parce que en anglais, ça s'appelle les onctionneurs. Et je n'ai pas trouvé de traduction, onctionneurs, les Français ne comprennent pas. J'ai dit, oui, mais anciens, c'est embêtant, parce que ça désigne des personnes qui dirigent l'Église. Voilà. Donc moi, je vais les appeler, je vais changer la traduction, parce que l'original est bien. Hein. Ils ont bien prévu onctionnaire. Bon, consécrateur, ils appelaient consécrateur. Onctionnaire, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais consécrateur, on consacre. Voilà. C'est l'huile de consécration. Hein, au moment où on prie pour les gens, on les consacre. Donc, vous appellerez consécrateur. Hein, intercesseur, consécrateur. On consacrait la personne. Donc, roi, sacrificateur, prophète, lépreux, par l'huile. Dans Exode chapitre 30, verset 22, l'Éternel parle à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle-ci qui coule d'elle-même, la moitié, 250 cycles, cinnamone aromatique, je ne vous passe les meilleurs, il y a 10 lignes, là je ne vous les lis pas, lisez chez vous, c'est très précis. Et il dit, tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Et où c'était très précis. Dieu avait demandé à Moïse de faire des choses très précises concernant l'huile de consécration pour les sacrificateurs. Elle devait servir à la consécration des sacrificateurs, c'est-à-dire c'est les gens qui ne devaient servir que dans le temple, hein, que au service de Dieu pour les actions liturgique, je dirais, du temple. Et là, c'était une huile spéciale. Et tous ces aromates parlent de quoi? Pourquoi est-ce que l'huile d'olive était mélangée à un tas d'aromates extraordinaires, hein, des senteurs, des choses vraiment superbes, et je suis sûr que Hélène a la réponse. Pourquoi pour les sacrificateurs, il y avait cette huile spéciale? Absolument. exactement ça. Vous voyez, dans le temple, il y avait plusieurs autels. Il y avait l'autel des parfums. Voilà. C'est pour ça que Fabienne Ponce a reçu que la maison de prière, à laquelle aussi on adhère, c'est la maison des parfums. Parce qu'en France, on a cette particularité de dégager des parfums. Hein, le parfum de la beauté, de la sensibilité, etc. Voilà. Mais ça, c'est spécifique au Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit dégage un parfum de bonne odeur, qui des prières des saints qui montent vers le trône. Hein. Et tout ça, c'est dans l'huile. Voyez. Donc tous les aromates qui sont dans l'huile pour le sacrificateur représentent, vous voyez, c'est une réalité derrière. Donc nous, quand on va au trône, devant le trône de Dieu, il faut qu'on y aille avec cette délicatesse. On n'est pas, voilà, les poings serrés, voyez. Les seigneurs, comme une fleur, voyez, il faut s'ouvrir. Et là, le parfum qui monte vers le Seigneur, eh bien, est agréable. Et on reçoit une onction particulière, une onction. Moi, une fois, j'étais au point du jour avec Michel et on était dans une grande réunion. Et à un moment donné, on sentait un parfum de rose, mais tellement fort que j'ai jamais senti un parfum de rose comme ça. Et ce parfum, il se déplaçait et on voyait les gens. Oh, il était là, et pendant une demi-heure, là, pendant le temps de louange, on sentait ce parfum qui se déplaçait. Et les gens couraient vite pour suivre le parfum. Vous voyez, c'est une expérience, hein, c'est pas, voilà, il ne fait pas tout le temps comme ça. Mais c'était incroyable. Le parfum de rose, c'était le parfum du Saint-Esprit qui se déplaçait. Et on pouvait le sentir. Mais les roses que jamais vous. J'ai jamais senti des roses comme ça. Hein, c'est les parfums du Seigneur. Vous voyez, donc, il se dégage de cette huile des parfums. Hein. Quand le Saint-Esprit agit, il dégage un parfum de bonne odeur. Et chacun de vous, nous sommes des parfums de bonne odeur. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es un parfum de bonne odeur. Hello? Voilà. C'est pour ça que quand vous êtes au travail, bon, j'étais au travail aussi, hein, donc je sais ce que c'est. C'est pas toujours marrant, c'est pas toujours cool, c'est encore de moins en moins. Mais il faut demander au Seigneur la grâce d'être un parfum de bonne odeur. Et si on s'est un peu énervé contre son chef, son machin, etc., on demande pardon. Et on cherche à être ce parfum. Hello ? Ça vous parle, ça ? Parce que c'est dans l'huile d'onction. C'est dans l'huile d'onction. Et notre nature, c'est l'huile d'onction qui nous revêt, qui nous donne cette odeur agréable. Vous voyez ? Par exemple, le copain de Rémi va dire... Il faut que je sois à côté de Rémi, je suis bien, je suis bien. Voilà, c'est ça, non mais c'est exactement ça. Il faut que les gens, et puis après ils vous disent, mais pourquoi je suis bien à côté de toi ? Ben vous dites, c'est Jésus. Et voilà, c'est comme ça que vous témoignez. Au lieu de prendre un tract, en disant, ouais, il faut que tu te convertisses, les cinq lois spirituelles, machin, etc. Vous êtes à côté, et puis le gars il dit, ah j'aime bien venir à côté. Hein ? Vous dites rien, vous attendez une fois, deux fois, trois fois. Une fois que vous l'avez dit cinq fois, il dit, mais tu sais pourquoi tu aimes être à côté de moi ? Parce que je suis le parfum du Seigneur. C'est comme ça qu'on témoigne. Efficacement, je parle. Pas avec la matraque et le fouet, le machin, etc. Mais vous êtes le parfum du Seigneur. Hello ? Redites-le entre vous. Vous êtes le parfum du Seigneur. Amen. Oui ? Le parfum qui se dégage de cette huile d'onction que vous avez reçue sur la tête. Parce que vous êtes tous des sacrificateurs. Amen. Amen, amen. Voilà, je vais m'arrêter là, mais j'ai fait qu'une page sur les 10, donc j'ai encore du... Voilà. La semaine prochaine, ouais. Voilà. Donc je termine pour dire que cette huile est symbolique, mais derrière ce symbole, il y a une réalité, le Saint-Esprit. Amen. Et l'onction que nous devons recevoir de Dieu et que nous avons tous reçue, nous devons demander plus. Seigneur, plus de cette onction, plus de cet esprit. Et à ce moment de Pentecôte, on va le faire tous ensemble, on va dire, Seigneur, donne-moi en abondance que je puisse déborder du Saint-Esprit. Voyez-vous, le parler en langue, moi je vous ai parlé de cette expérience que j'ai faite en 1971, voilà, j'ai toujours besoin, j'ai eu un tas de remplissages du Saint-Esprit, mais on continue à en avoir besoin. Amen. Seigneur, remplis-moi de cette onction, de cette huile. Amen. Vous le voulez ? Alors on se lève et simplement chacun tend les mains vers le Seigneur, dit Seigneur, en ce jour de Pentecôte, eh bien j'ai besoin encore de cette onction fraîche, de cette huile fraîche qui vient de toi. Remplis-moi de cette huile aromatique, de cette huile onction, de cette huile où se dégage la douceur de Jésus, où se dégage l'amour de Jésus, où se dégage la beauté de Jésus, où se dégage toutes ces choses qui vont, que les gens autour de moi, et en particulier les enfants, le conjoint, déjà vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose de différent qui ne vient pas de nous, qui vient du ciel. Alors demandez-le maintenant, alléluia, élevez vos voix tous ensemble, alléluia. N'écoutez pas le voisin, dites au Seigneur ce qu'il y a dans votre cœur et que vous le voulez, parce que c'est individuel, vous recevez individuellement la présence du Saint-Esprit ce matin. Seigneur, merci de répandre ton esprit ce matin sur chacun de nous. Seigneur, nous voulons ta présence, nous voulons ton onction, nous voulons ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas rester vraiment secs, Seigneur, et rester sur une expérience du passé. Nous voulons que cet expérience soit renouvelée par ta présence, Seigneur, afin que nous soyons des témoins, Seigneur, de ta grâce, de ton amour, Seigneur. Oh, nous avons besoin de cette onction. Viens, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, viens, descends, Seigneur, sur chacun de nous. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, de ta grâce. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Revêt-nous de ton esprit. Revêt-nous de ton esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que nous soyons vraiment de ceux qui parlent avec autorité, mais aussi avec sagesse, avec discernement, avec amour, avec vraiment les paroles qui viennent de toi, afin que les cœurs soient touchés, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour l'onction maintenant, merci pour cette onction. Seigneur, tu nous accordes ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire.